Simon Cacci, comment vous avez travaillé en fait la partition? Quand vous l'avez vue, comment vous êtes engagé dans cette création? Quelle est la première impression que vous avez eue?
Alors, la première impression était pas commode, était déjà très prémonitoire du boulot qu'on allait avoir à faire ensemble. Dès le premier coup d'œil, en fait, j'ai compris, voilà, on n'était pas là pour rigoler. C'était une partition très sérieuse, très savante, avec beaucoup de références diverses. J'en reviendrai plus tard sur ces références-là. Et il y a eu un premier stade de lecture où je lisais, je lisais, je lisais, puis je laissais reposer. Et puis après, en plus, il faut dire qu'on était en pleine pandémie quand je l'ai reçu, et que ce n'est pas très inspirant de travailler quand on est dans les conditions de la pandémie et du lockdown, etc. Et après, ben, le monde a repris, l'inspiration revenait progressivement, et j'ai commencé à décortiquer. J'ai vraiment travaillé d'abord petit bout par petit bout, et puis progressivement essayé de grandir pour trouver une vision d'ensemble sur ces cinq mouvements qui s'enchaînent, qui sont en réalité deux grands, voilà. Donc c'est une structure très complexe.
Simone Menez. La question qui me vient, quand vous avez reçu la partition, quelle était votre première réaction? Comment vous réagissez?
C'était un peu la même réaction de Simon. Je compris que ça ne serait pas facile parce qu'elle combine deux choses très complexes. D'abord, l'aspect savant de la musique classique, de la musique contemporaine, qui est très intellectuel et qui demande un effort très intellectuel. Mais en même temps, elle reste avec des moments de rythme et des complexités rythmiques très latines qui demandent aussi un effort physique, qui demandent aussi une respiration, une intériorité de rythme. Donc cette dualité qui demande beaucoup au niveau intellectuel et au niveau physique pour cette musique.
Et la caractéristique que j'ai eue, c'est qu'elle demande aussi une très grande qualité de l'orchestre en termes solistes. Individuel, parce qu'on voit bien que à chaque fois, quand vous étiez sur mantra, qu'il fallait, c'est très difficile à répéter quand on a le piano là, la harpe qui est là, avec l'hexophone et puis le crotal, et on voyait bien qu'il y avait, en fait, c'était presque une unité. Alors, comment, au départ, c'est vrai, quand j'ai entendu, j'avais pas entendu l'unité. Et après, en suivant votre travail de répétition, j'ai compris qu'il y avait là une construction qui était intéressante, mais qui posait des problèmes d'orchestration, de perception orchestrale, en fait. Et donc, comment le chef arrive et comment vous avez fait? Comment bah, j'ai vu bien sûr le travail que vous faites de répéter, de bien mettre en place et de trouver les équilibres. Mais c'est une impression qu'on a tout de suite d'emblée quand on déchiffre la partition. Vous l'avez très vite perçu ces types de problèmes?
Oui, complètement. C'est une musique qui demande aussi beaucoup de l'orchestre au niveau individuel. Demande pas seulement une capacité technique, mais aussi un QI musical, une certaine intelligence musicale. Pour comprendre, parce qu'elle change de langage tous les temps, donc il y a des mouvements comme les mouvements que vous avez mentionnés, les mandalas, qui on est sur une musique presque des petits récitatifs qui s'élargit de plus en plus avec des couleurs très françaises. Et il y a aussi des mouvements un peu plus stravinskiens qui amènent notre pensée. Donc, il faut que les musiciens soient rapides de comprendre tous ces univers qu'elle va passer.
Et vous, Simon Cacci, quand vous avez abordé le piano, j'ai vu que vous étiez très, très en relation avec la compositrice, très attentionnée. Et vous avez beaucoup dialogué avec elle par Internet sur la partition, parce que là aussi, ça demande une grande technique de pianistique.
Oui. Après, l'avantage, c'est que Gabriela Ortiz, elle sait très bien écrire pour le piano. Donc, à aucun moment, je me suis dit, ah là là, cette partie-là, elle n'est pas du tout pianistique, il va falloir arranger. Non, voilà, c'est quelqu'un qui sait écrire pour le piano, qui maîtrise très bien cet instrument, qui visiblement sait très bien orchestrer aussi. C'est vraiment, moi, je la considère comme une très grande compositrice. En plus, c'est ma compatriote, donc avec toutes ces couleurs latines, j'ai l'impression de faire un voyage au Mexique. Mais c'est vrai que c'est pas du Brahms, c'est pas du Schumann, c'est pas Beethoven, c'est même pas Debussy. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans les repères au niveau digital. Moi, vous mettez une partition de Liszt ou de Brahms, etc. Voilà, je vois un accord et je sais tout à fait où il tombe. Alors que là, il a fallu beaucoup de temps d'appropriation du langage parce que c'est un langage bah, du 21e siècle, un langage qui est propre à elle. J'ai toujours l'impression que c'est à la fois Debussy, Messiaen et Arturo Márquez mis dans un quick shaker.
Et, mais la question que j'aurais voulu venir, c'est mais pourquoi parler si bien le français? Comment ça se fait?
Moi-même, moi je suis français. Ah, d'accord. Moi je suis français d'origine mexicaine. Ma mère est mexicaine et mon père est libanais, pour l'anecdote.
D'accord.
Et donc, à nous deux, on est les Nations Unies en fait. Italie, Mexique, Liban.
Et donc vous avez fait des études musicales où?
À Paris. D'abord au Conservatoire de Boulogne, ensuite au Conservatoire de Paris, le CNSMDP. Ensuite, je suis allé en Finlande à l'Académie Sibelius à Helsinki.
Et alors beaucoup de musique contemporaine?
Pas du tout, au contraire, c'est pas du tout moi, d'habitude mon créneau. La musique latine, oui, je joue du Villa-Lobos, je joue du Ginastera, je joue du Marquez, Lecona, etc. Mais ce créneau de la musique contemporaine, ce n'est pas habituel, en tout cas pas dans cette densité. J'ai déjà fait des créations, on a déjà écrit des musiques pour moi. Je travaille beaucoup avec un compositeur qui est plus style IRCAM, musique électro-acoustique, où donc l'instrument acoustique se mélange avec des nouvelles technologies, etc. Mais ce genre de langage purement contemporain, en plus sur cette durée de 25 minutes environ, un véritable concerto, c'est la première fois.
Et quel est le compositeur?
Pardon, le compositeur que je mentionnais, c'est Jacopo Baboni Skilling.
Oui, je connais bien.
Ah, super. Oui, il est prof de composition à Montbéliard.
Donc, j'ai quand même une familiarité avec la musique contemporaine.
Oui, oui, non, c'est pas la première fois que je joue la musique contemporaine. Voilà. Fort heureusement. Voilà.
Parce que vous avez choisi un programme qui était, je crois, presque, vous êtes présent presque tout le temps.
J'y parais, oui.
Il semblerait. Donc, quand même, avec une diversité de styles et d'écriture. Et malheureusement, je suis l'auteur d'un ouvrage sur les compositrices en France. Ça s'est fait facilement de venir travailler à l'Orchestre national de Bretagne?
Si c'était facile, dans quel sens?
Vous généralisez, est-ce que vous avez une proposition de direction d'orchestre en première ligne, pas simplement...
Ah oui, non, oui. Je travaille depuis un moment avec des très belles orchestres. Cette année, je dirige l'Orchestre Philharmonique de Munich, l'Orchestre de la Radio de Berlin. Je fais la création de projets avec la forêt amazonienne à la Philharmonie de Paris.
D'accord.
Donc, j'ai la chance de travailler.
Donc, voilà, donc ça commence à se régulariser. C'est un peu un paradoxe, parce que quand je vois là, on avait une compositrice... Une chef?
Moi, de ce que je vois, c'est que moi, je suis très ami avec une chef femme qui s'appelle Alondra de la Parra, elle est mexicaine. Et on discute beaucoup. Il y a 10 ans, il y avait un machisme très présent dans les orchestres. En fait, en plus, elle était jeune à l'époque, elle avait 25 ans, 28 ans, je ne sais plus. Donc, elle commençait à venir diriger un grand orchestre en tant que femme. C'était une complexité. Aujourd'hui, je ne sais pas comment tu revis, mais j'ai l'impression et j'espère qu'il n'y a plus du tout cette dimension homme-femme, c'est chef tout court, que ce soit une chef-femme, un chef-homme, du moment où tu as la force et les idées pour diriger un orchestre, et tant mieux en fait, parce que pour moi c'est un combat qui ne devrait même pas être, c'est un combat très siècle dernier.
Et je suis d'accord avec vous, je pense que c'est récent, c'est-à-dire par exemple dans ma carrière, je peux dire que les dernières 3 années, ça marche super bien, je dirige partout. Mais au départ, il y avait même, on sentait que toutes les femmes étaient obligées de créer ses propres ensembles pour être visibles. Et c'est vrai que si on prend les femmes qui ont plus de 40 ans, toutes ces femmes-là qui sont encore aujourd'hui dans les marchés, ce sont des femmes qui ont commencé avec un ensemble qu'elles ont créé.
Ouais.
Mais je crois qu'il y a un vrai changement. Il y a une chose intéressante, c'est un changement... qui vient au verba, dans le sens où ce n'est pas une initiative qui se passe dans les milieux des orchestres qui ont envie de se renouveler et qui vont proposer ça, mais malheureusement ça vient au verba, ça veut dire les gouvernements, les directions d'orchestre imposent un peu et petit à petit ça devient normal. Donc c'est un procès assez intéressant qui se passe comme ça. Ça veut dire peut-être qu'il y a un changement de génération aussi des musiciens, des orchestres, qui se passe au même moment. Mais on a le privilège de vivre un moment un peu plus facile, je pense.
Une question qui me vient, c'est le management de l'orchestre, puis le management aussi du soliste. Est-ce que se fait-il d'une nouvelle manière? Est-ce que ça change un peu le modèle que les hommes avaient l'habitude d'opposer à un modèle, hein, je veux dire. Et est-ce que ça change aussi le modèle? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus horizontal dans la relation?
Ça change parce que ça change aussi la façon de la société penser. Donc, si on imagine il y a 10 ans, la société, c'était une société où le leader était quelqu'un associé à la force. L'armée, c'était comme ça, l'orchestre, c'était comme ça, même l'église, c'était comme ça. Sauf que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est d'une telle complexité et qui une personne forte, elle n'arrive pas à faire une chose toute seule. Elle a besoin d'unifier plusieurs têtes pour penser avec elle. Et dans ce sens-là, un leader d'aujourd'hui, ce n'est pas plus une personne qui arrive à donner la volonté de lui, à imposer quelque chose, mais à mettre ensemble de gens pour que ces personnes-là ensemble fassent quelque chose de plus fort. Et c'était très intéressant parce que hier même, j'ai écouté une émission sur, les coachs psychologues pour les sportifs. Et les coachs psychologues pour les sportifs, on sait aujourd'hui que les points qui va définir les grands sportifs, ça ne va pas être les physiques aujourd'hui, ça va être les mentales.
Ouais.
Et donc les orchestres, on passe à côté avec une vision ancienne de ça. On impose, mais au moment qu'on arrive à construire au niveau psychologue un ensemble, on va arriver dans une performance beaucoup plus élevée. Donc, et ça, peu importe si c'est un homme ou une femme, il faut juste que ce soit quelqu'un avec cette ouverture.
Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que même au niveau des solistes, que ce soit des solistes hommes ou des solistes femmes, aujourd'hui, pour survivre dans le monde dans lequel on vit, ce n'est plus une compétence physique, c'est une compétence mentale. C'est les plus forts dans la tête. Je pense que le XXe siècle était beaucoup sur les muscles dans tout genre, tu vois, et qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus vers une solidité mentale qui permet d'affronter une charge de travail, une nouvelle partition, un management d'orchestre ou un stress de scène. Voilà, c'est de toute façon, c'est beaucoup plus de l'ordre du mental. Et c'est très bien que aujourd'hui, voilà, la société, les structures, etc., privilégient ça, la gestion mentale de la chose, plus que juste une démonstration de muscles.
Et alors pour finir, je dirais, comment vous pourriez définir le concert ? Vous avez une définition, puisque vous avez un concert là, il y a beaucoup de musique sud-américaine évidemment. Et est-ce que vous construisez une représentation ? Mais la question, je la retourne là, est-ce que quand vous faites un concert comme ça, est-ce que vous définissez quelque chose, quelques éléments qui vous semblent tramer ce que vous allez faire ?
Moi j'ai un seul mot qui définit ce concert, qui est le titre du concert, « Celebration ». C'est une célébration, c'est une fête. C'est une fête de toutes les couleurs. Il y en aura pour toutes les sauces. C'est vrai. Et les amateurs de musique contemporaine, ils trouveront leur goût. Les amateurs de musique savante, ils trouveront leur goût. Les amateurs de fête et de salsa et de musique du soleil et de la mer et de Cuba et d'Argentine trouveront leur goût. C'est une célébration, c'est une fête, une grandiose. Il y en a qui jouent des valses de Strauss au concert de fin d'année. Et ben nous, on joue la petite Latin American.
Merci.
Merci. Mais peut-être que tu voulais rajouter quelque chose.
C'est complètement
d'accord. Merci.